having a good time.
Bienvenue dans l'Open Mic.
Next stop on the mic.
Open Mic, Open Mic.
L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct.
Open Mic, Open Mic.
Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Hello, 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 10h, 1 minute, salut, bon matin, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, mon nom c'est Yann Marceau, très content de vous accompagner jusqu'à 11h30 dans l'Open Mic avec, normalement, Audrey Pinchot, qui est en vacances pour deux semaines, ou deux ou trois, de mémoire, et Elodie qui sera là pour la remplacer, qui est avec moi ce matin, salut!
Hey, contente de te retrouver, Marceau!
Comment ça va, la mom?
Ah, ça va bien, ça va très, très bien, puis après une petite semaine, un peu plus de télétravail à cause d'une petite fille malade, alors commencer à rouler sur ses roulettes, fait qu'on est là, on ne tente personne, puis je suis contente d'être avec toi.
Tu parles-tu avec d'autres mamans, toi, des fois?
Pas mal, pas mal.
C'est tous les employeurs qui sont très flexibles là-dessus sur les enfants qui sont malades?
Honnêtement, ouais. Je pense que c'est mieux que c'était, mais c'est loin
d'être parfait.
Ça s'est amélioré, hein? Puis justement, il y a plusieurs de mes amis la semaine dernière, quand je leur parlais de comment ça avait été perçu ici dans l'entreprise, qui me disaient « T'es chanceuse, bouge pas de là, sont flexibles, sont compréhensifs. » Tu sais, la semaine dernière, quand j'ai dit à Steven « Ouais, ma petite est malade, on est allé à l'hôpital, elle a une grosse laryngite, puis tout ça », il m'a dit « Hey, je me souviens d'à quel point le monde arrête de tourner quand t'as un enfant malade. »
Ouais, faut l'avoir vécu. Hein. «
Fais ce que tu peux à la maison, puis regarde, on trouvera moyen de s'arranger, tu sais, ça va bien aller. »
On est en guerre!
C'est un poids de moins sur mes épaules, là, fait que, ouais, on est bien chanceux.
On est en guerre. Dis-moi, je me souviens pas du temps où moi j'allais, j'ai jamais vraiment été à l'hôpital avec mes gars, ben à part pour leur naissance, là, mais on allait surtout dans des cliniques. Est-ce qu'on était prioritaire? Il me semble de mémoire, en fait, on avait des rendez-vous, mais quand tu vas à l'urgence, avec un enfant, t'es-tu prioritaire?
Ça y va vite.
Ça va vite?
Vraiment beaucoup. À date, en un an, je suis allée deux fois à l'hôpital avec la petite puis je suis passée direct.
Okay.
Mais tu sais, j'y vais pas pour rien. J'y vais pas pour « elle se gratte l'oreille », là, tu sais. J'y vais parce que mon enfant... Les deux fois que je suis allée, c'est parce que mon enfant venait de s'étouffer puis je trouvais que ça se plaçait pas bien bien avec un melon d'eau. C'est vraiment le fun. Puis la deuxième fois que j'y suis allée, c'était la semaine dernière, puis elle avait des difficultés respiratoires. T'sais, elle faisait un peu de tirage, là. Fait que quand même, fallait pas niaiser. Puis en effet, j'ai vu un médecin là, dans les 15 minutes après mon arrivée.
Wow! OK.
Donc, triage direct. Mais aussi, faut dire, je vais à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'habite à côté. C'est pas l'urgence où est-ce qu'il y a le plus de monde non plus.
Non, mais en même temps, j'ai quelque chose de cassé. Là. Puis j'étais à l'urgence, puis je sais que je suis sur une liste d'attente parce que notre modèle de soins de santé est basé sur les listes d'attente constantes. Il y a un bébé qui arrive. Déjà, moi, que je manque de patience parce que ça fait 5 heures que je suis là, puis le bébé, il souffre, puis il pleure. Je veux qu'il passe en premier pour qu'il s'en aille le plus vite possible.
Pour vrai, oui. Je pense que c'est un consensus d'être comme, OK, passez la mère puis le bébé. Là, puis après ça,
ça va être fini.
Un bébé qui braille dans une urgence, il n'y a rien. Plus... Ça, puis le gars qui parle trop longtemps au téléphone, là, c'est gossant.
Mais je sais pas, c'est peut-être parce que ça vient nous chercher. Tu sais, ma blonde, elle fait venir des chats à maison, de la SPA. On est famille adoptive, nous autres. En fait, famille de transition, parce qu'on les accueille, puis là, on a des petits bébés pas sevrés. Fait que là, il faut qu'elle les nourrisse au genre 4-5 heures.
Vous les avez encore?
On en a pris une autre famille.
OK, parce que je me souvenais que c'était temporaire. Là.
C'est la deuxième famille. La première, il était plus vieux, il venait d'être sevré, puis là, les trois qu'on a eus, c'était des bébés qui n'étaient pas sevrés. Dans le fond, la mère les aurait abandonnés ou il est arrivé quelque chose de tragique à la mère. Oh. Puis ils ont appelé la SPA, ils sont allés les chercher. Puis là, ma blonde était comme, ouais, c'est beau, on va les prendre, je suis capable de me lever aux 3-4 heures la nuit pour les nourrir. Et le cri d'un bébé chat,
ça
vient te chercher.
Ça ressemble au cri d'un bébé, je trouve.
J'imagine que la nature est faite comme ça. Tu as tout le temps le besoin d'essayer de combler ce cri-là. Fait que c'est la même affaire quand tu es au restaurant, tu entends un bébé pleurer à côté de toi. Là, les mères, ils se lèvent.
Oui.
Quel enfant, c'est quoi ses besoins?
On a du lait. Ça m'a déjà fait ça. Un autre bébé dans un restaurant qui pleure. J'ai senti la petite chaleur faire... Dans la brassière, bon, ça y est.
Là, David a dit, chérie, qu'est-ce qui arrive?
Ça y est, je spot sur mon chandail. Comment t'expliques ça? Hein?
Je sais pas, mais c'est la nature, en fait. Ouais. Puis juste le cri des bébés chats en fin de semaine, quand ils ont faim, Ça me fait penser au cri des bébés quand il avait faim. Mes gars, quand il avait faim, ça criait tellement fort, tellement aigu.
Ah oui, puis écoute, tu parles à la personne qui écoute des documentaires sur les chats sur Netflix, là, OK?
T'écoutes des documentaires sur les chats?
Oui, c'était comme nos magnifiques amis les félins. Puis là, j'ai écouté ça une fin de semaine en me faisant les ongles. Et ça le disait que la nature est ainsi faite que le cri des chats ressemble à celui des bébés. Et ça arrive à la maison que c'est mon chat qui pleure, ben qui miaule, puis je le confonds avec mon enfant. Puis c'est un chat adulte, là, c'est un chat de 15
weird,
ans.
Hein?
Quand même.
Oh, c'est weird que d'écouter des documentaires sur les chats.
Ouais, je savais que t'allais rire de moi.
Mais là, c'est ça, c'est des petits bébés non sevrés, puis on en a perdu un, je pense que c'est la semaine passée.
Oh,
c'est 33 % de survie qu'ont les portés quand ils perdent leur mère.
Ah, oh, ouais, quand...
C'est-à-dire que si t'en as 10, là, en bout de ligne, tu vas réussir à en sauver 3. Ça veut dire qu'il y en a 7 qui partent, là.
Puis vous autres, ça vous a-tu fait de la peine?
Mais moi, j'ai pas d'attachement là, très proche à ces bébés chats-là, parce que je sais que le risque que j'en perde un est là.
Ma blonde, tu sais que c'est déjà bon que vous en sauviez quelques-uns.
Ma blonde, elle, ça a été une journée à terre. Là.
Ben, c'est sûr.
Ouais, parce que c'est elle qui s'en occupe.
J'aurais été pareil.
Mais tu vois, j'aime pas les chats, mais les deux chats qu'on a adoptés pour mes gars, s'ils étaient pas là, je pense qu'ils me manqueraient.
Tes chats pas de poils, là?
Les chalettes, là.
Ouais. Ouais.
Les chats tout nus.
Avoue que t'es acheté pour tes gars, mais que finalement... Ben, adopté, devrais-je dire. Pour tes gars, mais que finalement, c'est tes chats, là.
Ben, par la ben oui, par la force des choses. Je veux dire, c'était la pandémie. Puis là, je voyais que mes gars se posaient des questions. Puis là, je me disais, ah non, ça ne tente pas que mes enfants soient traumatisés par ça. Fait, je me suis dit, on va adopter deux bébés chats. Mais moi, j'aime pas le poil à la maison. Là, je me suis fait avoir, j'ai adopté un golden. Mais on va adopter deux bébés chats pour les gars. Puis les gars, tu sais, ils sont tombés en amour avec les chats, même s'ils étaient laits, là. Ils sont tombés en amour. Puis quand il y a eu séparation, ben la mère de mes gars voulait pas nécessairement les garder à la maison. Elle dit, ben si toi, tu les veux, tu les prendras. Fait que tu comprends que moi, sont 7 jours sur 7 avec moi. Puis les gars, ils voient 3 à 4 jours par semaine.
Quand même.
Mais ça n'en demeure pas moins que c'est moi qui s'en occupe du matin jusqu'au soir.
On parle pas assez souvent du poids sur les épaules d'un père de famille qui a des animaux de compagnie.
Moi, j'ai une ferme.
Au départ, pour les enfants.
Ouais.
Tu sais, vous dites oui pour faire plaisir aux enfants, souvent pour les responsabiliser ou un peu en zoothérapie, comme tu dis, pour de l'accompagnement dans des périodes plus difficiles et tout. Mais qui est là pour ramasser les cacas sur le terrain? C'est souvent
c'est
papa.
Ouais.
Qui est là pour ramasser la litière? C'est papa. Puis quand les animaux doivent nous quitter parce qu'ils sont malades. Quand on se tourne vers l'euthanasie après une longue vie à la maison, qui accompagne l'animal? C'est souvent papa, puis c'est souvent papa qui est dans le plus grand deuil aussi. Je sais que je parle en général, mais dans ma famille, ça a toujours été ça.
Ouais.
À toutes les fois que finalement, après, mettons, 8, 9, 10 ans, le chien devait nous quitter, c'était mon père qui allait, revenait, puis il disait « On n'aura plus jamais d'autre, c'est trop difficile! » 2 semaines plus tard, un bébé chien!
Ouais, mais je pense qu'on était de même aussi pendant le temps des fêtes. Là, nous autres, je ne sais pas si toi, tu as connu le distribution consommateur. Là.
Ben, j'ai connu Sears.
Mais distribution consommateur, là, dans le temps des fêtes, là, c'était le temps de faire des promesses à ta mère. Là.
Ah ouais.
Je vais ramasser ma chambre.
Ouais.
je vais faire la vaisselle.
Parce que tu voulais la voiture.
Exact.
Téléguidée à la fin du catalogue d'un cadeau les plus chers.
Je voulais ça. Puis après ça, ben, je l'avais. Puis après ça, on oubliait la vaisselle, on oubliait de ramasser la chambre. Faisait des promesses, hein?
Mais tu sais, quand t'es un enfant, t'es dans le moment présent. Fait que dans le moment présent, oui, je te promets, je vais ramasser. Mais quand t'es rendu dans ton autre moment présent, c'est tellement plus intéressant de jouer aux jeux vidéo, d'aller jouer dehors avec les amis.
Ouais, effectivement. All right, côté météo, on est plus gâtés aujourd'hui qu'en fin de semaine. Actuellement, sur Québec, on est autour de 7 degrés. Pour aujourd'hui, c'est une alternance soleil-nuage jusqu'à peut-être cet après-midi où on parle de pluie intermittente. Maximum de 9 degrés. En soirée, c'est de la pluie avec un minimum de plus 4 degrés. Mercredi, c'est un ciel dégagé avec un maximum de 10. Jeudi, ensoleillé, maximum de 11. Et vendredi, ensoleillé, maximum de 13. Puis si je vais plus loin, samedi, dimanche, jusqu'à maintenant, ensoleillé pour samedi avec un maximum de 14. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil et de nuages, maximum de 15 degrés. C'est-tu plus compliqué des fins de semaine de 3 jours? 418-971-1021. 418-971-1021. Vous revenez au travail le mardi. Est-ce que vous payez pour votre journée que vous n'avez pas travaillé le lundi? Toi, dans ton cas, tu as plusieurs fonctions ici à la station.
Ouais.
Fait que j'imagine que tu dois reprendre ce qui n'a pas été fait le lundi.
Je travaille le samedi puis le dimanche ici. Fait que j'ai avancé un peu de stock de la semaine à venir samedi, mettons, en prévoyance. Fait que pour ma part, pas trop de poids sur les épaules, mais j'imagine que ouais, quelqu'un qui a une job classique de bureau, là, tu sais, puis qu'on a 5 jours à combler de travail normalement, là, faut tout plancher en 4. Tu sais, mais des fois, c'est là que tu te rends compte que tu es capable d'être plus efficace que tu le penses.
Ouais, ouais. La fin de semaine de 3 jours, il y en a qui voudraient ça tout le temps. Moi, je suis un peu hésitant. J'aime bien travailler 5 jours pour avoir 2 jours de congé.
Ouais, mais t'es addict au travail, toi.
Je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai pas assez de
passe-temps.
De passe-temps. Ou
d'abri tempo
à
poser.
La fin de semaine. Ou, j'ai pas assez d'enfants. Mais c'est ça. Le lundi, quand il retourne à l'école, je me dis ah, mes vacances commencent. Hey, on parlait de jeux vidéo tantôt. J'ai payé un article super intéressant dans la presse. Je sais pas si t'es passé dessus, mais on parle de jeux vidéo. Puis le titre est tellement beau, quand le jeu vidéo devient un plaster.
OK.
Puis moi, c'est ça, les jeux vidéo. C'est un plaster pour me vider la tête le soir. Si j'arrive à la maison, mettons, les enfants sont pas là, la conjointe est pas là ou est couchée, je m'embarque sur les jeux vidéo, je peux passer 2 heures, 3 heures là-dessus, puis je pense pas à rien pendant 2 heures, 3 heures.
Puis l'article parle d'un plaster positif ou d'un plaster négatif? Parce que ce que tu me dis, moi, je vois pas de problème avec ça.
Ouais, ben c'est surtout axé sur les enfants, l'article, mais j'ai trouvé que le titre était super beau, quand le jeu vidéo devient un plaster, parce que pour moi, c'en est un. J'en ai pas besoin de tout le temps d'un plaster, mais quand j'ai la tête pleine, j'embarque là-dessus pour... Là, je dis 2 heures, 3 heures, c'est rare que je sois capable de faire ça. Mais mettons, 1 heure, 1 heure et demie, là, je m'embarque sur NHL. Là. Puis là, je game contre des gars qui sont un peu partout dans le monde avec mes Canadiens de Montréal. Puis j'essaie de le sacrer des rincés. Puis on dirait qu'après ça, la tête est complètement vide.
Mais tu sais, ça prend ça, je pense, dans la vie, des activités qui te font complètement décrocher. Peut-être que le problème avec le plaster, c'est quand, au lieu de vivre des émotions que tu as à vivre ou d'avoir des conversations que tu es supposé avoir avec des gens autour de toi, tu fais juste te noyer dans les jeux vidéo ou n'importe quel autre passe-temps.
Il ouais. y en a qui le font avec la boisson, il y en a qui le font avec la drogue. Moi, je prends pas de boisson vraiment à cause que je prends de la Coors Light, fait que les gens disent que c'est pas de la boisson.
C'est de l'eau.
Puis je bois peut-être 1 ou 2 verres de vin par semaine, puis je prends pas de drogue pas tout.
Non, fait que, pas de
c'est
de
peut-être mon échappatoire.
Ouais.
Je sais pas si vous autres, ça en est un, les jeux vidéo, l'échappatoire, mais bref, l'article parle surtout des enfants. Puis là, ben c'est Mathieu Arcan qui parle de ça. Puis il y a une collaboration spéciale avec des pédopsychiatres qui ont donné des témoignages dans l'article. Ils disaient, bon, difficulté à s'arrêter, envie de fréquente de jouer, des champs d'intérêt restreints et excès d'émotions. Depuis 2020, lui-même, il a accompagné des centaines de familles avec son entreprise qui s'appelle le Gamer Mentor et il a observé des similitudes chez les ados lorsqu'il est question de jeux vidéo. Puis il dit que dans la majorité des cas, problèmes qu'on pourrait attribuer aux jeux sont souvent liés à un manque de... Attachez-vous, maturité causée par un cortex préfrontal non développé. Puis là, on parle vraiment des adolescents. Mm-hmm. Il dit que c'est une partie qui serait pleinement fonctionnelle autour de 25 ans.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai beau dire aux filles que j'ai 25 ans, elles me croient de moins en moins. Fait que, techniquement, cette partie du cerveau-là, dans mon cas...
Toi, c'est tes rides préfrontales qui manquent.
Oui, c'est ça. J'ai pas mis assez de crème. Puis là, il dit, ce sont pas tous les ados qui sont cyberdépendants. C'est à peu près 90% des ados qui jouent à des jeux vidéo, qui jouent à des petits jeux vidéo sur leur cellulaire et
ouais,
tout ça.
Ouais.
Il y en a combien, selon toi, puis même les auditeurs peuvent participer au 418-971-1021, il y en a combien qui sont considérés au Québec comme cyberdépendants?
J'imagine que c'est pas tant que ça.
Mais...
Ben, cyberdépendant, il me semble que c'est gros, là. C'est plus que...
Tu sais quoi? Moi, je pensais que je l'étais. Avec mon cellulaire, là, même en vacances, j'ai avec mon cellulaire, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je lis mes trucs d'actualité, je jase avec mes chums par Messenger. On dirait que je serais plus capable de me passer de ça jusqu'au moment où je me dis, tiens, je fais des fins de semaine sans cellulaire. Bon Dieu, ça fait du bien. Mais je
capable.
Me considérerais peut-être comme cyberdépendant,
ouais.
Mais...
Fait que 20%, mettons, tu m'as demandé un chiffre, 20%.
Fait que ça serait 1 personne sur 5... qui serait cyberdépendant.
Ouais.
Écoute, c'est probablement, j'aurais dit 3 personnes sur 5. Fait que 60% des gens seraient cyberdépendants.
OK, puis dans l'article, ça dit quoi?
1 à 3% des jeunes.
C'est vraiment pas beaucoup.
Donc, j'imagine que c'est des diagnostics qui ont été faits, bien entendu.
Oui, c'est ça. Rendu là, c'est pas tout le monde qui sera en clinique pour se faire évaluer. Là, c'est pour ça que les statistiques sont peut-être pas complètes. Mais encore une fois, ça se peut que ce soit juste 1 à 3 % des jeunes. Ça se peut que ce soit pas un si gros problème que ça.
Ben, je te persuade. Ben, je veux dire, tu sais, mes gars, je pourrais considérer qu'ils sont cyberdépendants. La fin de semaine, je suis obligé de leur donner des heures pour jouer. Parce que sinon, ils pourraient jouer du matin jusqu'au soir.
Puis tu fais bien, honnêtement.
Je leur donne des heures. Après ça, je leur ai donné un cellulaire. J'ai dit, les gars, je veux que vous soyez responsables avec ça. C'est pour communiquer avec vos amis. C'est pour communiquer avec vos parents. Je pogne le cellulaire une semaine plus tard. Il y a genre 25 jeux vidéo dessus qui ont été téléchargés.
C'est
fait que là, on a dû faire le ménage. Mais mes gars pourraient être considérés comme cyberdépendants si je les empêchais pas de jouer. Là.
Penses-tu que si tu enlevais les restrictions de temps puis que tu les laissais complètement à eux-mêmes, ça, sur le long terme, ce serait problématique ou par eux-mêmes, à un moment donné, ils feraient « Bon, ben là, je vais aller dehors. Bon, ben là, je vais appeler mes amis. Je m'ennuie.
Hey, » c'est rare, mais ça arrive que des fois, j'en vois un remonter en haut. Là, il est comme tout dépeigné. Il a de la barbe.
Il sort du film Castaway, là.
Il sort de Tom la caverne.
Sur son île.
Puis là, il vient avec moi, puis il vient jaser avec moi. Puis là, il a comme besoin de jaser, puis de parler avec son père, puis de voir la civilisation, regarder par les fenêtres dehors. Il y a du gazon, il y a du soleil.
Parce que, tu sais, on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut avec les écrans, avec les jeux vidéo, avec les téléphones cellulaires, mais en bout de ligne... Je veux dire, c'est un besoin pour les jeunes aussi de socialiser. Ouais. Mais c'est sûr que là, à cette heure, il y a une dimension qu'il n'y avait pas dans le temps que je jouais aux jeux vidéo quand j'étais jeune. Maintenant, ils ont la socialisation sur les jeux vidéo, par exemple.
C'est ça. Puis là,
ça,
il y a...
c'est sûr qu'il y a ça.
À l'école, j'en ai un qui est encore à l'écrit avec son crayon. Puis l'autre, il fait tous ses travaux sur ordinateur et tablette à l'école.
Oh, à longueur de journée
à
là-dessus.
À longueur de journée.
Ça, j'ai un problème avec ça.
Ben c'est pour ça que moi, j'ai pas le choix de mettre des heures de jeu.
Ben
t'sais.
Non, parce
la
que
fin
sinon...
de semaine.
Il passe la journée sur une tablette.
Exact. La fin de semaine, de mémoire, c'est une heure ou une heure et demie le samedi et le dimanche matin. Puis après ça, le soir, c'est une heure et demie, deux heures après souper, s'ils veulent. Quand il y a une game d'hockey, ils écoutent la game d'hockey avec leur père.
Puis quand tu lis l'article qui parle là, des jeux vidéo comme Plaster, y a-tu des red flags, des drapeaux rouges à identifier pour un parent pour savoir que là, son enfant est en train de s'enfoncer dans le gouffre de la cyberdépendance? Ou...
C'est pas dit dans l'article, là, mais je me souviens d'un psychologue qui avait déjà dit « Tant aussi longtemps que ça n'a pas d'impact sur votre vie personnelle et professionnelle, il n'y a pas de problème. »
Tant que t'es fonctionnel, c'est beau.
Tant que t'es fonctionnel, c'est beau.
Mais quand tu manques de l'école ou t'as plus d'amis ou...
Tu peux commencer à te dire que t'as un problème, mais ça, c'est la même affaire pour la boisson, c'est la même affaire pour la drogue. Mais ce qu'il dit, c'est que les jeux vidéo, en fait, ce que l'article dit, c'est que les jeux vidéo sont faits pour ça, pour combler carrément la pyramide de Maslow.
La pyramide de Maslow, c'est celle des...
Les besoins de base.
Les besoins, c'est ça, de vie. Là,
les besoins physiologiques, les besoins de sécurité. Puis avec les jeux vidéo, tu es capable de tout combler ça. Le besoin d'appartenance.
Tu manges pas quand tu joues aux jeux vidéo?
Besoin d'appartenance. Ben oui, tu manges des chips. Besoin d'appartenance.
Oh oui, le sentiment d'appartenance.
Tu établis des relations avec les jeux vidéo. Tu as l'impression de faire partie d'un groupe. Là, mes gars, ils peuvent pas jouer à ça, là, mais écoute, c'est un jeu de guerre.
Fortnite, Call of Duty.
Call of Duty.
Call of Duty.
Hey, quand...
Ça, j'ai un ex qui... Il partait une journée là-dessus, là.
Ouais. Puis tu vois pas le temps passer.
Moi, j'avais le temps, là, tu sais. Lui, le temps qu'il jouait, j'avais le temps de me lever, de me faire un bon déjeuner, d'aller courir, d'aller bruncher avec une amie, de revenir, de ressortir à l'extérieur, faire deux, trois travaux, aller porter mon char au garage, de revenir. Lui, il était encore là-dessus. Il s'était rien passé d'autre que... OK, on l'a, les gars!
Parce que le temps s'arrête, parce que t'es excité. Puis donc, tu fais partie d'un groupe, puis tu te sens peut-être un peu plus compris puis accepté par la communauté qui joue au même jeu vidéo que toi.
C'est sûr.
Besoin d'estime, désir de valorisation, des compétences puis du statut, besoin de reconnaissance et du respect des autres, besoin d'accomplissement, constamment de la motivation à poursuivre des objectifs puis à atteindre les réussites. Puis t'as tout le temps divers paliers. Hey, félicitations, t'as atteint tel palier.
T'as des badges. Puis
Fortnite, là, c'est fait comme ça. Là. Mm-hmm. C'est plein de couleurs, t'as plein de personnages, tu peux les habiller comme tu veux. Puis à chaque fois qu'il atteint un stade, c'est des félicitations puis entre guillemets des feux d'artifice. Donc les jeunes se sentent comme valorisés au travers de ça.
Ouais.
Puis ils arrivent dans la chambre de hockey, puis au lieu de parler de la game de hockey, histoire réelle. Au lieu de parler de la game de hockey, c'est « Hey, t'as-tu vu le nouveau Fortnite? Il vient de sortir. »
Ah ouais, hein?
Ah, il trippe vraiment. Puis, bon...
Mais c'est fait pour ça. Tu sais, à titre comparatif, pour ceux qui jouent pas nécessairement aux jeux vidéo, mais qui ont un téléphone cellulaire, c'est-à-dire la grande majorité des gens, toutes les petites notifications qui apparaissent ici et là pour attirer ton attention vers quelque chose d'autre, c'est dans le but de te faire passer plus de temps sur ton téléphone cellulaire. Les gens qui font la conception autant des applications mobiles que des jeux vidéo, Ils font pour que tu restes là-dessus le plus longtemps possible.
Oui, puis il dit que le sentiment est beaucoup associé. Tu peux avoir à peu près les mêmes sentiments que quand tu fais du sport ou quand tu fais de la musique. Il dit, prenons par exemple un jeune qui ne serait pas un sportif de nature ou un musicien qui réussit très bien à l'école sans trop d'efforts, bien, il n'a pas l'impression qu'il a besoin de se dépasser. Par contre, il a découvert que c'était possible de faire du speed runner.
Hein, je sais pas c'est quoi.
Speedrunner, là, c'est comme la speedrun Super Mario. Fallait que tu passes le plus rapidement possible la cassette.
Oui.
Fait que tu étais timé, là.
Ben oui, je m'en souviens.
Fait que
oui.
Là, lui, il est pas hyper performant au hockey, mm-hmm. même si c'est son sport préféré. Il est pas hyper performant à guitare parce qu'il dit, regarde, j'essaie.
C'est trop de travail.
C'est trop de travail. Mais quand il fait du speedrun, c'est le meilleur.
Fait
qu'il se valorise par ça.
Mm-hmm.
Fait que les jeux vidéo sont faits pour ça, mais moi, ça m'a surpris pour boucler la boucle. Là. Ça m'a surpris de savoir qu'il y avait seulement 1 à 3 % de jeunes qui étaient cyberdépendants.
J'ai vraiment l'impression que c'est plus, puis qu'on est conservateur à cause des diagnostics. Mais tant mieux si c'est pas si pire.
Ouais.
Mettons.
Exact. 418-971-1021, 418-971-1021. Vous êtes dans l'open mic, Elodie, qui est là pour 2-3 semaines en remplacement d'Audrey Pinchot, qui est en vacances, la chanceuse. Nous autres, on s'en va en musique. Caravane, avec Entre ma tête et mon cœur sur les ondes de Boulevard. En vous souhaitant un excellent mardi.
Comment vas-tu arriver?
Oh boy! Là, ça va jaser en studio. On a des placoteuses. On a Elodie Derry qui, depuis sa naissance, est une placoteuse. Et on a Paul Lévesque, éducatrice spécialisée.
Oui, Paul, je suis sûre que c'est de naissance aussi.
Qui est spécialiste du comportement humain. On me dit que le Twitch n'aurait pas de son.
Ah non, il y en a là.
Bon, il y en a.
Il y en avait juste pas pendant les pauses. Est-ce que vous le laissez d'habitude?
C'est une bonne question. Il faudrait demander ça à des gens qui travaillent ici.
Ah oui, c'est ça. Il est pas au courant.
Comment ça va, ma belle Paul?
Ça va très bien.
Hey, on parlait de deuil, de séries télévisées ou encore de films. Tu sais, quand ça finit, tu dis, oui, on s'en met un film, quand j'en aurais encore pris plus tellement je trouvais ça intéressant. Puis après ça, on parlait du fait qu'il y a des gens qui retournent dans leurs anciennes séries. Moi, je suis en train de me retaper les Lost, là. C'est long dans mon cas quand je me retape des séries. Parce que j'écoute à peu près 15-20 minutes d'émissions de Lost par jour. Ce qui fait en sorte que un épisode, ça peut me prendre quoi 2-3 jours à peu près à écouter.
Je suis pareil.
Mais le plaisir que
c'est
j'ai
long.
À revenir sur les anciennes séries que j'avais déjà écoutées. Puis des fois, tu découvres comme d'autres choses. Puis ah, ben tu vois, ce personnage-là, à première écoute, il ne m'intéressait pas tant. Mais waouh, tu sais, quel personnage qu'on a décrit. Puis tu parlais des petits deuils qu'on avait quand ça finissait.
Quand ça finit, c'est comme si tu quittais un univers dans lequel tu t'es plu à te déposer, à connaître les personnages. Puis c'est vrai que quand tu écoutes une deuxième fois, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu n'es pas rendu à la même place non plus. Ton attention n'est pas attirée par les mêmes affaires.
Ah!
Tu comprends?
Oui.
Tu n'es pas à la même place. Un peu comme des fois, il y a des gens qui vont suivre... Des fois, il y a des gens, juste parce qu'ils disent, ils voient mon nom, ils disent, on va à la conférence à Paul. Même si j'ai 60 thèmes, ça se peut faire 3 fois qu'ils écoutent le même thème parce qu'ils n'ont pas, même s'ils sont tout le temps retravaillés, puis ils me disent, on dirait que ce n'est pas la même conférence. Parce que, comme tu n'es pas rendu à la même place, tu n'écoutes pas de la même façon.
C'est tellement vrai.
Tu t'assois avec tes besoins. Puis d'ailleurs, moi, je l'observe, quand je viens vous voir, puis je vous propose des thèmes, vous allez probablement choisir des thèmes qui sont en lien avec quelque chose que vous avez envie vous-même d'entendre à cause de ce que vous vivez, à cause de... Tu sais, parce qu'on a envie d'être attaché à ce qui se dit, puis on n'est pas attaché de la même façon selon ce que tu... Tu sais, ce que tu as vécu hier, ce que tu as vécu il y a 3 semaines, où tu as les 2 pieds dedans en ce moment,
tu sais. Ouais. Tu vois, moi, j'ai écouté... Elodie a parlé de la série Friends. Moi, je ne l'ai pas écouté quand ça jouait, là, semaine après semaine. Je l'ai réécouté plus tard quand ils étaient tous disponibles. Je les ai pognés sur Netflix.
Moi, je les ai pognés sur Netflix. Maintenant, ils sont sur Crave, je pense.
Puis, quand ça a terminé, j'avais un petit deuil. J'étais là, hey, je ne reverrai plus à la gang.
Ouais.
C'est ça.
C'est comme c'est tes amis. Ils font partie de ton quotidien. Tu connais leur personnalité, leur joie, leur peine, leur travers, leur qualité. Puis, en effet, je trouve que c'est réconfortant de revenir à cette gang-là une fois de temps en temps. Puis, avec Friends, ce que je fais, tu sais, une journée que t'es malade, là, tu sais, une journée bouillon de poulet, là, ben, je retourne écouter un épisode au hasard. Je m'en fous de pas suivre la chronologie des événements, puis ça me fait du bien.
Ouais.
Plus que d'écouter quelque chose de nouveau, où est-ce que là, il faut vraiment que tu sois attentif, puis tout.
Là. Puis là, tu vois, j'ai embarqué mes gars dans les Simpsons. Mes gars sont pas nés à l'ère des Simpsons.
Mais non.
Là, je les ai embarqués là-dedans, puis ils sont crampés les deux. Ils comprennent pas toutes les jokes, là, puis ils comprennent pas pourquoi moi je ris à chaque fois qu'Homer dit des niaiseries. Mais.
tu es Homer!
On se reconnaît peut-être.
Ben, il y a
un
des
peu.
Petites tendances, effectivement.
Non, non, au départ, j'étais comme Bart, plus jeune, j'étais comme Bart. Puis là, en vieillissant, je me rends compte que, oui, effectivement, là, Homer me fait penser un peu à moi des fois. Mais j'aime ça m'amuser.
Puis le faire découvrir à quelqu'un d'autre.
Oui, exact. Ouais. Exact. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, aujourd'hui, tu as choisi un sujet que j'aime bien, le fameux TDAH. Puis j'aimerais ça qu'on discute juste avant les trois. Qu'est-ce qui fait qu'en 2024, tout le monde a besoin d'être dans une case bien précise? Longtemps, moi, j'ai eu des gens autour de moi qui disaient « Ah, mais moi, je suis TDAH. » J'ai peut-être fait partie de ces gens-là aussi. Puis je me rendais compte que ces gens-là, c'était pas des TDAH diagnostiqués. Mm-hmm. Ils disaient tout le temps « Ah, ben moi, je suis à haut potentiel. » C'est comme si les gens avaient toujours besoin d'être uniques puis de se mettre dans une case. Ça se peut que tu sois juste lâche puis que tu ne sois pas assez responsable dans la vie, mais définis-toi pas comme TDAH. Tu n'insultes pour les gens qu'ils sont pour de vrai. Mmh.
Moi, je veux te clamer haut et fort, je suis neurotypique.
C'est quoi ça encore?
Je suis normale!
Puis là, c'est le grand thème pour dire... J'ai rien de particulier.
Ouais, en tout cas, j'ai pas été diagnostiquée.
J'ai vu un gars sur Internet, je pense que c'est sur TikTok, qui disait « Ah, moi, je suis neurodivergent. » Tu sais, avant, t'avais hétérosexuel, homosexuel. Là, homosexuel, c'est juste straight.
Moi,
Serge de Noncourt, que j'aime bien écouter, là, Serge de Noncourt, je le trouve franchement brillant. Lui, c'est un gay avoué, puis ça fait longtemps qu'il est avec son chum. Ça fait des décennies. Puis il dit qu'il se fait rejeter par la communauté LGBTQ plus 2XY parce qu'il est trop straight.
Il est juste... aux hommes, puis c'est un homme.
Mais tout le monde désire aujourd'hui être dans une case. Ils ne veulent pas être comme tout le monde. Fait qu'ils se mettent dans des cases, puis même ceux qui ne sont pas TDAH se disent TDAH parce qu'ils sont trop lâches pour être à leurs affaires.
Mais ça vient de où, ça, c'est vrai?
Écoute, il y a beaucoup de questions là-dedans. Bon, démêlant tout ça, mais c'est tellement intelligent. Ben, je pense que le terme est galvaudé. C'est que pour expliquer notre comportement, on va utiliser une étiquette qui est connue et reconnue pour expliquer, j'appelle ça des raccourcis.
Pour excuser peut-être
même? Ça, il y a tout ça là-dedans. Okay. Mais le premier, c'est je pense qu'on prend des raccourcis. Pour expliquer à quelqu'un que j'ai beaucoup d'énergie, par exemple, je vais dire que je suis hyperactive, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On peut prendre des raccourcis, ça peut être le manque de connaissances, ça peut être l'excuse, « Ah, mais moi... » Je suis TDAH. Donc, tu comprendras qu'il se peut que je sois ceci, cela.
Donc, pardonne-moi.
Pardonne-moi et je peux l'utiliser. Mm-hmm. Mais je pense aussi que c'est le manque parfois de connaissances. C'est quoi? Puis aujourd'hui, je vous avais envoyé vraiment le fait de s'attarder au déficit d'attention avec hyperactivité, mais aussi quand je reste avec quelqu'un. Parce que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on comprenne la différence entre « je peux pas » puis « je veux pas ». Parce que c'est vrai qu'il y a des caractéristiques qui vont faire que... Bon, premièrement, c'est pas une maladie, là. On vient de régler ça. Donc, c'est pas évolutif. Tu nais et tu meurs avec un TDAH ou un TDA. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand je comprends mieux qui je suis, ça se peut que je sois plus performant. Moi, je travaille avec des gens d'affaires, là, tu sais, qui ont des portefeuilles de millions puis qui ont un vrai déficit d'attention puis que sont obligés d'avoir... Des petits points de couleur dans leur dossier mm-hmm. pour être capable de se démêler.
Mais ils se prennent en main, Paul.
Oui,
moi, j'en ai contre les gens qui se disent TDAH, qui n'ont jamais été diagnostiqués, mais il faut que tu acceptes qu'ils ne sont jamais à l'heure. Il faut que tu acceptes qu'ils sont supposés t'appeler pour telle ou telle raison, mais ils ne t'appellent pas. Il faut que tu acceptes que la maison n'a pas été barrée, mettons. Parce qu'elle ou lui a juste décidé qu'il ne barrait pas à la porte cette journée-là. Il n'y a pas pensé. Faut que tu acceptes que cette personne-là, avant de se coucher, elle ne mette pas son alarme pour se lever pour aller travailler le lendemain. Non, non, attends un peu. Structure-toi, puis je vais être là pour t'accompagner. Là. Parce que c'est de ça qu'on parle, d'avoir une conjointe ou un conjoint TDAH. Ça doit être l'enfer pour quelqu'un qui ne l'est pas, d'être en couple avec quelqu'un qui se dit TDAH, mais qui, dans le fond, veut juste pas prendre ses responsabilités en tant qu'adulte.
Puis même si tu l'es, même si tu l'es, chérie, je te parle en ce moment, là. Non, mais c'est parce que mon chum, il est là-dedans, dans cette catégorie-là, OK? J'ai dit, t'écouteras la radio, chérie. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre je le suis et je prends des bons moyens compensatoires pour être fonctionnel. Parce que la pire chose à faire quand t'es conjoint ou conjointe, c'est de materner ou d'infantiliser.
Ah, oh, c'est bon, ça.
OK? Peu importe qui qu'il y a devant toi. Tu sais, moi, je fais 4 pieds 10, là. Je le cacherai plus. Yannick peut le clamer haut et fort puis me taquiner avec ça. Ben, tu sais, chez nous...
Tu sais quand ça prend un escabeau pour monter sur sa chaise, là?
Oui, ben c'est quasi... Non, mais je pourrais... Il faut que tu ignores Élodie, parce que si tu lui donnes trop de crédit, il va en rajouter.
Oui, il faut que je fasse comme avec mon chum. Ignorer les comportements négatifs.
Oui.
Donner de l'attention aux comportements que j'apprécie.
Oui.
C'est ça aussi avec mon enfant d'un an.
Oui. Ben, c'est parce qu'il y a des risques que là, ça prenne le dessus.
Hein, quand elle jette sa bouteille d'eau par terre, je la ramasse sans rien dire. J'y donne, puis après trois fois, je fais juste plus m'en occuper.
T'es une bonne mère.
Continue,
Marceau. T'es la bonne route. Mais tu sais, ce que ça veut dire, c'est... On peut utiliser, peu importe que ce soit le déficit d'attention ou autre chose, je donnais ça comme exemple, parce que tu peux utiliser ton physique pour excuser que je ne ferai rien. Ben, j'ai des bas dans toutes les pièces. Je ne suis pas toujours en train de l'attendre pour dire « viens chercher quelque chose en haut de l'armoire ». Ben, c'est la même chose pour les déficits d'attention. Mm-hmm. T'sais, pis si on démêlait les affaires, c'est pas parce que tu as de l'énergie que tu es hyperactive. Parce qu'au départ, le déficit d'attention, c'est un désordre neurologique qui n'évoluera pas. Il va évoluer seulement si tu prends des bons moyens compensatoires, tu comprends? Mais c'est pas le déficit qui évolue, c'est toi qui es plus intelligent que le déficit.
C'est que finalement, quand tu as un vrai de vrai diagnostic, que oui. tu comprends exactement comment ta tête est faite,
oui.
mais là, tu peux aller chercher les outils pour
oui.
travailler avec ton TDAH puis être efficace quand même. Puis j'imagine même, puis j'ai entendu ça, puis j'ai hâte que tu me dises si c'est un mythe ou une réalité, même des gens qui ont un TDAH qui sont outillés peuvent même être plus performant que oui. quelqu'un qui...
devient oui. souvent des hommes et des femmes d'affaires.
Oui, c'est ça.
Oui,
hein?
parce que ça ne touche pas, et là, je vais vous dire, un déficit d'attention ne touche pas l'intelligence, mm-hmm. ne touche pas la mémoire, ne touche pas la personnalité, ne touche pas la persévérance. Et pour moi, le travail, la persévérance sont les outils essentiels pour réussir dans la vie. Donc, on peut réussir, peu importe la caractéristique, à moins que ce soit une caractéristique extrêmement pénalisante. Quand tu parles d'un déficit d'attention pur, on appelle ça les lunatiques.
Ouais.
OK? Donc, ça veut dire que tu oublies... OK, l'image, c'était un clignotant. Je suis là, je suis pas là.
Ouais.
Je suis là, je suis pas là.
C'est bon.
OK?
Tic-tac.
Donc, tu fais des absences, tu fais des oublis. Et c'est ceux qu'on diagnostique le plus tard. Parce qu'ils dérangent pas les autres.
Ça, c'est ceux qui ont pas d'hyperactivité.
Voilà, okay. le déficit d'attention pure.
J'ai passé 5 ans avec un TDA. Quand on s'est séparés, il est allé consulter parce qu'il venait de se séparer et ça allait pas bien.
La semaine d'après, il est revenu en disant « Salut mon amour ». Puis il dit « ça fait une semaine qu'on n'est plus ensemble. » Il a juste oublié le moment.
Il était pas là. Il était pas là. Mais à partir du moment où il a su que c'était un TDA, premièrement, on a fait des liens avec tous nos problèmes de couple. Puis deuxièmement, sa vie est partie en flèche vers le succès et le bonheur. Là.
Oui, parce que...
Puis j'étais plus là aussi, il y a ça.
Ben, on va mettre... tu sais, c'est multifactoriel. Peut-être, Élodie, c'est le pourcentage qu'on ne sait pas. Quel était le pourcentage?
Mais tu sais, on a eu des discussions là-dessus. Puis je sais que c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a eu son diagnostic, il a eu ses outils. Et en effet, c'est un diagnostic qui a eu lieu dans la trentaine parce que sans hyperactivité,
oui.
on cible beaucoup moins facilement le problème.
Oui. Puis je vais te dire même plus que ça, c'est qu'il y a 40 ans, on n'en parlait pas alors que c'est rendu...
Ça n'existait pas.
Puis actuellement, il y a des parents qui vont être diagnostiqués parce que vous savez que c'est héréditaire à peu près à 80 %. Donc, il y a des parents qui se reconnaissent dans leur enfant et qui disent « OK ». Parce que, tu sais, des fois, les gens me disent « Oui, mais Paul, ça donne quoi d'être diagnostiqué? Mm. Oh, je veux pas de médication. » Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de comprendre enfin pourquoi. Pourquoi j'ai tel comportement? Pourquoi j'arrive pas au niveau relationnel? Et tu le comprends et tu avances. Si tu le comprends pour l'utiliser... Là, j'ai un bug avec ça. Donc, tu peux avoir eu un bonus, déficit d'attention avec hyperactivité.
Puis ça, la personnalité est différente. Tu sais, là, tu disais, celui sans hyperactivité, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Celui avec hyperactivité, il est tout le temps là ou...
Il y a un feu de Bengale dans la tête. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a le déficit d'attention qui est clignotant, fait des oublis, tout ça, mais en plus, il y a un feu de Bengale dans la tête. Fait que, tu comprends? Il est comme monté sur un ressort. Et souvent, les gens qui ont beaucoup d'énergie, on va dire « Ah, il est hyperactif ». Moi, on pourrait me dire ça, mettons. Mais moi, je n'ai pas de déficit d'attention, donc je ne suis pas hyperactive. Je suis juste une fille qui a beaucoup d'énergie.
Est-ce que l'hyperactivité vient nécessairement avec le TDA?
Oui.
OK.
Ah oui, oui.
Tu ne peux pas être juste hyperactif.
Non.
Je ne savais pas ça.
Tu as un déficit d'attention avec hyperactivité. Au départ, c'est ça la trame de fond. Et tu peux avoir eu un deuxième bonus, qui est l'impulsivité. Mais tu peux avoir aussi... pas l'hyperactivité, c'est-à-dire le déficit d'attention avec impulsivité, comme tu peux avoir eu les deux jackpots. Et dans l'impulsivité, tu peux retrouver certaines caractéristiques qui sont là ou pas là, tout dépendant. Donc, bien sûr, l'impulsivité, c'est que tu penses après, mais tu peux avoir des habiletés sociales qui sont faibles, tu peux avoir de l'opposition, tu peux avoir de l'anxiété. Et tout ça vient avec un dérèglement neurologique.
Mais là, le rôle du conjoint ou de la conjointe dans cette histoire-là, tu dis, c'est pas de materner.
Non.
C'est de ne pas infantiliser la personne. Mais est-ce que la personne a un rôle quelconque ou elle fait juste laisser aller son TDAH ou son TDA dans le vide?
Ouais. C'est une bonne question. Moi, on m'a souvent dit que j'avais besoin plus de structure. Moi, j'étais un gars qui fonctionne bien dans la déstructure. Quand j'ai pris mes cours de pilotage d'avion, c'est quand même assez important d'être structuré. Okay. À partir du moment où je suis concentré sur mes instruments et tout ça, je suis bien correct. Mais j'avais une déstructure, puis c'est comme ça dans ma vie amoureuse, c'est comme ça dans ma vie avec mes chums, c'est comme ça dans mon travail, dans ma vie en général. Heureusement, la déstructure m'a donné une job, mais...
mais ta garde parce que tu t'es organisé.
À un moment donné, quelqu'un qui est arrivé dans ma vie, puis il a dit, Yann, c'est dur, quand nous autres on est organisé, de vivre avec toi, parce que c'était une de mes anciennes conjointes, de vivre avec toi alors que toi, t'es complètement désorganisé. Ben tu sais quoi? J'ai commencé à me faire des listes. Si je fais un lavage...
Tu te rappelles, on avait parlé.
Oui. Si je fais un lavage, c'est vrai, c'est toi qui m'avais sauvé avec les listes. Si je fais un lavage, ben je l'écris, OK, ben mon alarme, je vais la mettre dans une heure. Fait que là, ça va vouloir dire que devoir mettre mon linge de la laveuse vers la sécheuse dans une heure. Fait que là, ça va sonner puis ça va être inscrit. Fait que là, comme ça, je suis capable de bien fonctionner. Mais j'ai pas de TDAH, je suis juste pas à mes affaires.
Ben, est-ce que tu as déjà été en évaluation?
Non, pas du tout, mais je veux dire, je ne corresponds pas. Quand je regarde tous les trucs pour correspondre au TDAH, je suis dans un point ou deux sur les 150 qu'il peut y avoir.
Quand tu lis ton DSM avant de te coucher?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ben, on peut avoir des caractéristiques sans avoir le diagnostic. On peut avoir certaines caractéristiques.
Oui, mais je veux dire, tu regardes le DSM. Elodie parlait du DSM, c'est le dictionnaire des maladies mentales.
Oui.
Ben, c'est normal de se retrouver
dans
à peu près toutes les choses. C'est le pourcentage qui va faire en sorte à savoir si tu peux avoir ce diagnostic-là ou pas. Moi, c'est juste que j'étais déstructuré dans ma vie amoureuse, personnelle, puis au travail. Fait que j'ai pas eu le choix de me prendre en main puis de me mettre des points de référence pour être un peu à mes affaires, tu sais.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de caractéristiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui peuvent être attribuées à plusieurs raisons. Tu sais, le fait d'être désorganisé peut prendre racine dans plusieurs éléments qui n'est pas nécessairement une maladie mentale ou un déficit d'attention. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est s'attarder aussi sur les caractéristiques puis comment on fait. Parce que je pense que quand tu comprends quelqu'un, il arrête de te taper ses nerfs. Tu sais, quand tu comprends que... Tu sais, mon chum, là, je te le dis, ça fait 39 ans qu'on est mariés, je l'aime à la folie, mais ça fait 39 ans que quand il va à l'épicerie, jamais, il revient avec les bonnes affaires. Si... Puis c'est un détail, tu vas me dire, mais la frustration au quotidien peut amener une usure du couple. Mais l'idée, c'est qu'on s'est assis puis on s'est dit comment on peut faire pour que tous les deux, on ne soit plus frustrés. Parce qu'il ne faut pas t'oublier quelque chose. Pas juste moi qui étais frustré. Lui aussi, parce qu'il est plein de bonnes intentions, parce qu'il se déplace puis il va à l'épicerie. Il est assez fin d'y aller pour notre famille, tu comprends?
Puis tu te sens jamais assez, tu sais?
Ben oui, puis cette reconnaissance-là, il ne l'a pas. Parce que quand il arrive avec la bonté d'avoir été à l'épicerie, nous autres, on y tombe sur le dos en disant...
Il se fait ramasser.
Qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas un raisin vert, c'est raisin... Bon, en tout cas, peu importe.
Fait que ça a été quoi la solution? T'es allée ou...
Ben non, parce que je veux pas faire à la place.
C'est ça.
Moi, en tout cas, moi, vous êtes pas obligé d'être d'accord, mais moi, c'est un adulte, puis j'ai pas envie de faire à sa place. Mm-hmm. Donc, on a dit, comment on fait pour trouver un moyen intelligent? Ben, il m'a dit, peut-être tu pourrais l'écrire, m'envoyer un message. Fait que sur mon téléphone, je l'ai, puis je mets des détails, parce que moi, je suis une fille assez synthèse, OK? Fait que j'écrivais une affaire, tu sais, margarine, mettons. Ben oui, mais ça se peut. Même si ça fait 20 ans qu'on achète la margarine, qu'ils achètent la mauvaise.
Margarine végétale.
Oui, la végétale.
Fait que je fais des détails. Fait que c'est pas... Moi, je me suis ajustée. Parce que tu sais, le seul pouvoir tu n'as sur toi, tu n'as pas sur l'autre.
Ouais.
Donc moi, je me suis ajustée aussi. Puis, il est responsable des moyens.
Oui,
tu me dis tout le
temps,
Paul, si tu me l'écris pas, tu le sais ce qui va arriver. Mm-hmm. Mais j'ai arrêté de lutter parce que ça aussi, j'ai pas envie de le changer, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie qu'on fasse équipe. Parce qu'à un autre moment donné, c'est moi qui n'ai pas bonne dans quelque chose.
Puis il se connaît aussi, puis lui aussi veut s'améliorer. Il y a Eric qui nous écrit au 418-971-1021. Il dit, savez-vous quoi, moi pour la laveuse, s'il y a du linge dans la laveuse, pour pas l'oublier, je laisse la lumière de la buanderie allumée.
Très
ce qui fait en sorte que quand je repasse le soir, je vois que la lumière est allumée. Je sais qu'il faut que je prenne mon linge dans la laveuse puis le mettre dans sa chose. Mais moi, combien de fois j'ai parti des lavages, j'oubliais, puis là, le lendemain, j'arrivais, le linge puait, je repartais le lavage, puis je l'ai oublié.
Ah, moi aussi, ça m'arrive,
oui,
par exemple.
Oui, puis vous allez dire, mais on ne peut pas croire qu'un couple va dysfonctionner à cause de ces affaires-là. Hey, j'ai fait juste la liste des frustrations au quotidien peut avoir mutuellement. OK, puis je n'ai pas fouillé, là. Peut-être, Yannick, tu vas te reconnaître mieux dans ma liste, puis tu vas te dire peut-être que... Bien, imagine que tu vis avec quelqu'un qui fait des oublis répétés. Donc, je vous donnais l'exemple d'épicerie, vous allez dire, Paul, c'est rien, mais c'est parce que des oublis répétés, c'est il peut oublier la petite à garderie.
Ouais.
Il peut oublier un rendez-vous. Mon chum a oublié de me dire un jour que c'était le baptême de notre nièce.
Oh mon Dieu!
Fait que le dimanche soir, il me dit, mais semble, j'ai oublié quelque chose en fin de semaine.
Oh non.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te faire la commission. C'était le baptême de.
Hein?
Mais oui, mais c'est parce que. Puis, c'est pas. C'est plus fort que la police, tu comprends? Fait qu'imagine les oublis répétés, la mémoire à deux balles. Moi, j'appelle ça la mémoire à deux balles.
Pas de mémoire, finalement.
Ben oui, t'as une rétention, mais faible. Mm. Donc, imagine que je te lance une information, Élodie, tu l'attrapes avec ta main si c'est une balle, OK? Je t'en envoie une deuxième information, tu l'attrapes, c'est une autre balle. Si je t'envoie une troisième information...
J'ai plus de main.
T'as plus de main. Ben, oui, ça se peut.
Tu lances dans le front.
Puis ça se peut que tu lâches tes deux balles pour attraper la troisième.
Ah oui.
Donc, souvent, avec un déficit d'attention, il retient que la dernière information. Parce qu'il a dû échapper les premières pour attraper la dernière.
Je suis un peu comme ça, puis le truc que j'ai développé, c'est de noter tout de suite. Donc, si quelqu'un me donne une tâche, ou si moi, je suis en train de me dire... Ah, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Je peux pas avoir confiance que dans une demi-heure, ah oui, c'est vrai, je dois le faire. Donc, dès que j'ai l'idée, puis même des fois, je vais arrêter quelqu'un qui me parle, je vais dire, OK, juste un instant, je vais noter
Très
ce que
bon.
Tu viens de me dire. Fait que comme ça, tantôt, quand ça va être le temps de m'asseoir à mon bureau, puis de voir la liste de tâches que j'ai, je vais être sûre de le placer dans mon horaire, parce que sinon, j'oublie. T'sais.
C'est génial. Ça n'est un truc, au fur et à mesure, laisser des traces, prendre des notes, faire des listes, mais ça vient d'une volonté au départ.
Mm-hmm.
Puis d'une reconnaissance, parce que moi, il y a des gens qui l'utilisent et il y a des gens qui font du déni.
Oui.
Et en faisant du déni de ce que tu es, c'est que tu ne prends pas les bons moyens. Il y a l'inverse aussi. Hey, parle-moi pas de ça. Hey, attire pas mon attention là-dessus. Je ne veux pas en entendre parler. Mais si je ne veux pas en entendre parler, ça se peut que je ne comprenne pas qui je suis.
Ah, oui.
Puis c'est pas de se crier des noms, c'est juste de dire je suis qui dans mes bons puis dans mes faiblesses. Puis si je suis capable de reconnaître qui je suis dans mon entièreté, je vais être capable d'évoluer. Tu sais, puis de trouver des moyens. Puis tu sais, quand tu parlais de frustration, bien, il y a la distraction, l'absence, planète Zerba. Tu parles à quelqu'un, des fois, qui a un déficit d'attention.
Il n'est plus là. Hein?
Il était là au début. Tu le vois, les yeux sont là, mais le cerveau, il n'est plus.
Tu parles à une pancarte.
Oui, puis il s'agit qu'elle essaye pas... Tu sais, ça se peut que tu parles de quelque chose de très sérieux, là. T'as vécu de l'intimidation au travail. Puis là, t'as hâte d'arriver pour en parler à ta blonde ou ton chum parce que c'est ton confident. Puis là, t'es en train d'y parler, puis ça te pogne au cœur, puis ça se peut que tu pleures. Puis Tipit, il est déconcentré parce qu'il vient de voir passer trois coccinelles japonaises, puis il vient de se rappeler qu'il va falloir qu'il fasse du traitement. Fait qu'il va t'amener là-dessus. Hey, c'est vrai, les coccinelles. Puis toi, tu pleures ta vie, puis t'es en train de parler. Fait que t'as l'impression qu'il n'a pas de cœur ou qu'elle n'a pas de cœur, mais... Mm-hmm. Ça décroche, tu comprends?
Écoute, j'ai des messages pour toi. Là. Hélène qui dit « Merci beaucoup d'en parler, les amis. C'est tellement insultant lorsque quelqu'un clame être TDAH sans l'être, sans diagnostic. Le TDAH, tellement plus qu'être seulement une personne étourdie. Lorsque j'ai enfin appris que je l'étais et j'ai été diagnostiqué, ça m'a aidé à aller chercher les bons outils ensuite pour m'aider. » Carl qui dit « Salut Paul, est-ce qu'un manque d'attention peut être causé par un manque d'écoute des autres? » Tu as répondu pas mal à cette question-là. Richard qui dit « Salut, je suis TDAH dans le H. J'ai 45 ans, j'ai eu mon diagnostic il y a de ça 2 ans. Même si je le savais depuis quelques années après avoir écouté PA Méthode en entrevue, c'est vrai que je ne suis la dernière personne à être aperçue. Mais moi, je m'en suis servi pour aller chercher des outils et non pour m'en servir comme excuse. » Tu vois, ça revient à ce qu'on disait tantôt.
Oui, mais je pense que la plupart des gens... Mais je pense... OK, je vais dire quelque chose de très grossier. Je pense que la plupart des gens qui se trouvent des excuses s'en trouvent de toute façon.
Dominique, il dit « Je vois le vent, je ris toute seule dans mon char. Paul vient de me décrire avec les coccinelles.
» Ben, c'est la vraie vie, tu comprends? Puis, mais ce qui est savoureux, c'est... Moi, je les appelle mes cerveaux de scientifiques. Ça, dans leur tête, c'est comme s'il y avait mille et une possibilités, ce qui amène le décrochage. Mais ils ont aussi l'hyper-focalisation.
Ça, sais-tu quand t'es tellement intéressé par quelque chose qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe?
Ouais.
Ouais. Ça, c'est aussi très TDAH, je pense.
Ben,
hein?
Il y en a d'autres qui ont ça aussi.
Ben,
là.
Je n'étais pas à faire ça. Je me souviens que quand j'étudiais au café, on était au Starbar. Je ne sais pas si tu as connu ce café-là.
Oui, oui, oui.
Je pouvais me plonger des heures et des heures dans mes études, puis après ça, me relever, puis dire « Hey, t'as peu, je suis arrivé ici un matin, il fait soir. » il fait tard le soir, puis il y a des gens qui sont habillés pour sortir à soir.
Parce que ça en est au Star.
Parce que j'étais hyper focus.
Oui, puis
Star Café, Star Café.
Puis ce qui est intéressant, sais-tu, c'est que, par exemple, des parents qui vont me consulter, moi, je ne peux pas faire le diagnostic. Je peux orienter vers... Tu sais, quand tu en as vu beaucoup, tu as des soupçons quand même. Puis qui vont me dire, Paul, c'est impossible que ce soit ça, parce que quand il joue à ses jeux vidéo, il peut passer 6 heures, puis il oublie de manger, de se laver, L'hyper-focalisation, c'est ça. C'est autant je peux décrocher quand j'ai aucun intérêt, et autant je peux être tellement là, puis ça va même avec les passions. Je m'investis totalement dans quelque chose et plus rien d'autre existe. Donc, ça veut dire qu'il se peut, par exemple, que si j'aime le golf, que je fasse que du golf, jour et nuit ou presque, puis que j'en oublie durant la saison tout ce qu'il y a autour. Alors, imagine les problèmes relationnels. Moi, il y a des gens qui m'ont consulté à cause de ça, parce que leur conjoint ou conjointe ont tellement d'hyper-focalisation sur une passion que tout le reste n'existe pas.
TDAH et jeux vidéo, comment ça se passe?
On parle de cerveau ici.
Parce que tu parles d'hyper-focalisation. J'imagine qu'un TDAH qui s'en va sur les jeux vidéo doit être hyper-focalisé.
Oui, moi j'ai
hyper stimulé, en tout cas, ça, c'est sûr.
Oui, puis souvent, ce qu'on va proposer, tu sais, c'est que les jeunes qui ont un diagnostic... Hey, tu sais que le diagnostic, c'est 10 à 12 heures d'évaluation, là, hein?
Ouais,
c'est pas s'asseoir une fesse sur le médecin et dire qu'il bouge beaucoup avec sa fesse, là.
C'est coûteux en temps... Autant qu'en argent, je pense. Là,
mais
c'est...
beaucoup ont des assurances pour ça.
Ah,
là.
OK, OK. C'est
oui,
bien.
Oui. En neuropsychologie.
Mais 12 heures? C'est quoi le genre de test?
Pas enfilé, par exemple.
Ouais,
là, mais ben, c'est parce que tu évalues un paquet d'affaires. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un déficit d'attention. Oui, il y a des caractéristiques, mais ils ont toutes leurs particularités. On va évaluer la mémoire, l'intelligence, un paquet d'autres affaires. T'sais. Mais l'idée là-dedans, c'est de se rappeler que dans le déficit d'attention, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être extrêmement pertinents s'ils sont bien contrôlés.
Oui.
L'hyperfocalisation pour un déficit d'attention...
Tu peux t'en servir à ton avantage.
Tu peux t'en servir à ton avantage, mais si tu focuses ces jeux vidéo, tu vas avoir de la misère. Écoute, l'image que je pourrais t'apporter, c'est quand les jeunes arrivent puis qu'ils ont un déficit d'attention, bien, de toute façon, ça devrait être ça en général, mais déficit d'attention, va pas ces jeux vidéo. Parce que si ton esprit est devenu créatif puis qu'il est allé dans un univers, tu vas avoir de la misère à ramasser pour faire le focus sur quelque chose que tu quittes plus au nez, qui est travail scolaire. Donc, idéalement, tout ce qui est récréo, particulièrement les écrans, vont être après tout ce qui a demandé de l'attention et de la concentration. C'est comme si je donnais mon esprit en vacances puis dire « ramasse-toi ». Puis, il y a la désorganisation facile, le petit déficit, tu comprends? Fait que ça se peut qu'il se désorganise puis qu'il mette tout son temps aux mauvaises places. Fait que des fois, c'est l'échec scolaire. Tu sais, imagine un déficit d'attention adulte qui est toujours ses écrans. Ça se peut que son conjoint, sa conjointe, n'ait pas la satisfaction souhaitée parce que...
Ben,
des fois,
quand,
tu te sens abandonné.
Quand t'es en couple avec quelqu'un qui fait juste du divan quand t'es avec, tu sais, quand il est en dehors du travail, par exemple, ou en dehors de l'école, c'est pas attrayant, là.
Bien, ça apporte des vrais problèmes. Puis tu sais, ce que je vous dis, là, moi, hier, je me suis assise et j'ai fait la liste de ce que je voyais dans ma tête quand les gens me consultent. Il y a des gens qui vont avoir une gestion émotive difficile pour toutes sortes de raisons, mais le déficit d'attention peut amener, par exemple, de l'impulsivité, une gestion anxieuse difficile. Donc, quand tu es impulsif, ça peut amener des réactions très vives qui peuvent blesser l'autre.
Mais tu as parlé d'anxiété, là. Le fait d'être TDA ou TDAH, est-ce que ça vient... Est-ce qu'il y a plus de probabilité que tu sois anxieux aussi?
Non, ça en fait vivre aux autres.
Oui, absolument. Si tu as eu le bonus 2, ce qui est à dire l'impulsivité, ouais. dans ce registre-là, il peut y avoir un désordre émotif. Oui, il peut y avoir de l'anxiété. Mais tu peux avoir un trouble anxieux ou être anxieux sans avoir de déficit d'attention.
Fait que ça, c'est pas nécessairement attaché.
Ça peut l'être. Okay. Ça peut l'être. Puis c'est ce que l'évaluation va te refléter mm-hmm, aussi.
Je comprends.
Lequel des bonus tu as eu. Moi, bon, j'appelle ça des bonus. C'est là, cute. Mais, ben, je pense que ce qui t'arrive dans la vie, c'est ce que tu vas en faire. Ça peut te rendre plus fort. Ça peut rendre des gens plus performants parce que, sachant ce que j'ai, je vais prendre des meilleurs moyens que celui qui n'en a pas, qui va dire « Oh, j'y vais comme ça vient. » Déficit d'attention, il faut qu'il soit organisé avec des moyens. Donc, il se peut qu'il soit plus averti que d'autres. Tu sais, monsieur qui laisse sa lumière pour se rappeler de sa sécheuse, il se peut qu'il ait multiplié les bons moyens. Donc, il devient plus efficace que s'il n'y avait pas eu de déficit parce qu'il est plus alerte sur, justement, mettre une alerte, mettre ceci, cela. Donc, il va s'habituer à être peut-être moins procrastinateur parce qu'il y a une tendance hein, chez les déficits d'attention parce que quand ça ne les passionne pas, on met ça en dessous du tapis.
Il décroche automatiquement.
Il décroche, ouais.
Est-ce qu'on a fait des recherches par le passé à savoir... Parce que quand on était jeunes, toi et moi, Paul, on parlait pas de déficit non. d'attention. C'était des gens qui étaient peut-être un peu plus lunatiques. Je pense que c'est comme oui. ça qu'on les appelait. Est-ce que c'était des gens qui, nécessairement, à cette époque-là, étaient lunatiques et troublaient la classe?
Ça dépend.
C'était les petits tannants. Tu sais, des petits tannants, c'était pas toujours lunatiques, là. On les appelait les petits tannants. Je regardais au niveau du Québec, dans le Canada, les statistiques démontrent que c'est au Québec où il y aurait le plus de gens qui sont TDAH, puis on y va avec les diagnostics, soit dit en passant. Puis même si je vais plus profondément, mettons qu'on prend la province de Québec, pour ce qui est de recevoir les diagnostics de TDAH chez les enfants par région, écoute, Montréal, là, ce serait 11% des enfants. Et si je m'éloigne de Montréal... OK? Je vais aller chercher la capitale nationale, donc la grande région de Québec. C'est 9 % de plus, 20 %
Hein? Mais si tu as des diagnostics faits... où je mets le bémol, c'est qu'il y a des gens qui sont diagnostiqués, mais que le diagnostic... Des fois, je pose des questions. Ton diagnostic a été fait comment? Par le médecin de famille, sur le bord de la chaise, 10 minutes, ils vont considérer quand même que c'est un diagnostic.
OK. Toi, ça serait un pédopsychiatre?
Il faut que ça soit un neuropsy ou un psychologue.
Neuropsy oui, ou psychologue.
Qui sont habituellement les. Oui, ça peut être un psychiatre, mais habituellement, ces gens-là, ils ont. Ça ne veut pas dire que le médecin de famille ne peut pas attirer l'attention, mais un vrai diagnostic doit avoir une évaluation. C'est sûr que quand tu es adulte, si ton enfant a un diagnostic avec une vraie évaluation, que toi, tu te reconnais à 100 % dedans, des fois, le médecin de famille va proposer une médication. Et quand la médication agit très bien, c'est un signal que probablement tu as aussi le diagnostic.
Donc, le médecin a le pouvoir de prescrire un médicament oui. sans nécessairement avoir un diagnostic officiel oui. avec les 12 heures là, de test oui. dont tu m'as parlé.
Oui,
okay, je comprends.
Il peut. Oui.
J'avais parlé avec docteur Annick Vincent, je ne sais pas si tu
oui,
la connais.
Oui, qui est spécialiste.
C'est une spécialiste en TDAH, c'est une psychiatre. Puis elle disait qu'un vrai cerveau de TDAH, là, si tu ne donnes pas de médicaments là, à ce cerveau pour fonctionner, c'est comme si tu te permettais d'évoluer dans la société alors que tu étais pratiquement aveugle.
Oui, exactement.
C'est une belle description, hein? C'est comme des lunettes pour le cerveau.
Ah oh, ouais.
Ben, c'est le titre de son livre. Mon cerveau a besoin de lunettes.
Ah, c'est bon.
C'est le titre de son livre, je pense.
C'est vrai, t'es venu présenter ce livre-là oui. quand je l'avais reçu, oh, oui. d'ailleurs.
Puis on parlait là, de vivre avec justement quelqu'un qui a besoin de lunettes, là, quelqu'un qui est TDA ou TDAH. Est-ce que ça peut pas être un bel outil en tant que conjoint, conjointe, de lire des livres sur le sujet pour un peu mieux comprendre comment ça se passe dans la tête de la
oui,
personne?
Oui, puis pour comprendre, faut pas que tu sois écœuré. Puis c'est ça un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est de dire... Quand je suis rendue à bout d'une situation, j'ai juste envie de quitter cette situation-là ou de maudire celui ou celle qui porte cette situation-là. Donc, j'ai plus envie de m'informer. J'ai juste envie de décrocher et de dire, okay. Il fait exprès.
Mais moi, dans la vie, là, je laisse beaucoup de chance là, à mes conjoints, Paul. T'sais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je laisse beaucoup de chance. Puis je regarde si la personne... Exemple, ça peut être aussi banal qu'on parlait du ménage, mettons. Okay? Oui. Puis là, je dis, hey, chérie, le ménage, on dirait que tu te laisses traîner beaucoup ces temps-ci. S'il y a un effort qui est mis quelques heures ou quelques jours plus tard pour qu'elle se ramasse, tout ça, je vais être très heureux. Mais mettons que ma conjointe est TDAH, puis oui. que ça a une influence sur notre couple, ça a une influence sur notre famille, ça a une influence sur son travail, puis on lui mentionne, elle a un diagnostic, elle sait qu'elle a un diagnostic, puis elle fait pas d'effort. Moi, l'avertir une fois, deux fois, trois fois, mais après ça, moi, c'est je m'en vais, là. Faut vraiment que ça vienne de la personne, là.
Ben,
faut pas... que la personne se responsabilise. Comment de personnes vont rester 10 ans avec quelqu'un de TDAH, va juste accumuler de la toxicité dans son couple, parce qu'elle va tout le temps être fâchée envers l'autre personne? Ça excuse pas tout le TDAH, là.
Ben, en fait, la première chose, c'est de dire quand quelqu'un fait des efforts, il y a de l'espoir.
Exact.
Mais pour que s'installe un lien de confiance avec quelqu'un d'autre, il faut que ce comportement-là soit gagné dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des discussions avec d'autres personnes. Il fait un effort 3-4 jours.
Ouais.
Après ça, puis où ça retombe? Fait qu'il faut qu'il y ait une durabilité dans le temps.
Exact.
Et pour qu'il y ait une durabilité dans le temps, il ne faut pas qu'il y ait de pensée magique. La pensée magique, c'est « ça va aller, ils vont faire des efforts 3-4 jours ». Mais si tu veux des comportements qui changent dans la durabilité, il faut qu'il y ait de l'humilité. Une vraie humilité de dire « voici, je reconnais qui je suis et je prends des bons moyens. Mais ces moyens-là, je dois apprendre à les apprivoiser. C'est pas vrai que tu prends un moyen, il va t'achaler au début, il va te tanner. T'es pas confortable avec quelque chose qui est loin de toi. » Donc, il faut aussi se donner la chance. Tu sais, moi, j'ai un bac en musique aussi, là, je fais de la musique. Puis, bien, pratiquer pour devenir bon.
Mm-hmm,
OK? Ouais. Ça veut dire que si je pratique pas, je deviendrai pas capable de... Il y a des gens plus vertuoses que d'autres, tu vas me dire. Mais il faut aussi, dans cette société d'instantanéité, se donner une chance d'avoir un malaise. C'est pas vrai parce que tu utilises un moyen au départ que tu vas dire « Miracle de Noël! » Il va te taper ses nerfs éventuellement. Jusqu'à temps que tu te sentes confortable avec lui. Puis ça, c'est important de se le dire. Il va avoir un temps d'adaptation. Il faut passer ce temps-là pour être capable d'être durable dans ce moyen.
Parce que le réflexe d'Élodie, je trouve ça franchement brillant. T'sais, exemple, lire le livre de Dr. Annick Vincent,
oui.
« Mon cerveau a besoin de lunettes ».
Puis il y a le deuxième pour les adultes qui s'appelle « Mon cerveau a encore besoin de lunettes ».
Mais une fois que le conjoint ou la conjointe prend acte de la problématique de l'autre, puis l'autre a vraiment été diagnostiqué, puis il a pris acte de son diagnostic, c'est beau de dire « Oui, mais je suis comme je suis, accepte-moi comme je suis », mais l'autre personne n'est pas obligée de t'accepter comme t'es là, si tu ne fais pas d'effort de ton bord.
Ben oui.
Oubliez les enfants sur la banquette arrière. Oubliez ton chien en plein jour quand il fait chaud, puis le chien dans le char. Je veux dire, tu peux pardonner, mais t'oublies pas. Puis si ça donne lieu à la mort d'un chien, ou bien encore pire, la mort d'un enfant, c'est catastrophique, là. C'est stressant pour la conjointe ou le conjoint d'être avec quelqu'un qui se prend pas en main.
Absolument. Là. Mais c'est pour ça que ça peut être une des causes de séparation. Tu disais tantôt, il n'y avait peut-être pas juste ça, mais il y a probablement l'accumulation du contre-coup de...
Pis... C'est ça. Ben, dans notre cas, puis tu sais, c'est des histoires qui remontent à quand même longtemps, mais en vivant avec quelqu'un de TDA, vous irez sur mon Facebook, là, vous foulerez dans mon passé.
Chantal qui n'a qu'ils le font en ce moment.
En étant avec quelqu'un de TDA, mais en le sachant pas, puis justement, sans hyperactivité, c'était plus... c'était mieux caché.
Oui.
Ben, on s'est rendu compte que cette personne-là, c'était beaucoup d'anxiété quant à son futur, quant à sa vie professionnelle. Quelqu'un qui n'était pas capable, officiellement, vraiment de se déposer à quelque part puis de performer. Pourquoi? Parce que justement, c'est devenu quelqu'un qui est un super bon entrepreneur. Donc, qui s'est servi de son hyper-focalisation pour le faire pour son propre compte, puis ça lui a rendu service. Et moi, j'ai été là dans la vie de cette personne-là au bout où est-ce qu'il est hyper anxieux. Pourquoi? Parce que son cerveau fait juste le diriger partout à gauche et à droite.
Exact.
Plutôt qu'être dans notre relation à nous, tu sais. Puis, ben j'ai trop essayé longtemps d'être une bouée de sauvetage. Donc, oui, ça peut fragiliser une relation, ça peut en briser une. Est-ce que si on l'avait su juste avant de se séparer, j'aurais déjà été écœurée, puis ça n'aurait pas fonctionné pareil? Est-ce que si je l'avais su des années plus tôt, on aurait travaillé ensemble en amont?
Peut-être.
Ça sert à rien aujourd'hui de penser à ça.
Oui.
Les deux, on a fait notre vie chacun de notre côté. Lui avec de nouveaux outils, moi avec quelqu'un qui n'a pas de TDAH, puis on a trouvé notre bonheur, tu sais. Mais je pense que ça peut être très difficile de vivre avec quelqu'un dont le cerveau ne fonctionne pas exactement comme le tien. Mais je pense que si les deux, tu prends le temps de t'outiller, ça peut fonctionner. Puis même, ça peut être une relation encore plus belle.
Oui.
Tu sais, les situations dont tu as parlé tantôt, tu sais, ça peut avoir l'air intense de parler du chien sur la banquette arrière ou de l'enfant à la guillotine.
Ouais, je fais des images.
Mais ça arrive.
Ben oui.
Mais ça arrive. Puis c'est grave. Il ne faut pas que ça arrive. Tu sais,
Tu sais, perd tout le temps sa job parce qu'il ne met pas son cadran. Je veux dire, mais pourquoi tu ne mets pas ton cadran la veille? Tu sais, tu le mets juste une fois, là, une fois par semaine. Tu le fais répéter à tous les jours. Là. Mais on dirait qu'il y en a qui sont incapables de le faire. Christian, qui nous écrit, Christian travaille en cuisine. Dis-moi, j'ai appris plein de trucs d'un chef de cuisine, TDAH. Il mettait des minuteries partout pour rien oublier. Et au départ, il y a quelques années, c'était vraiment mal vu pour des chefs de mettre des minuteries.
Ouais.
Mais lui, c'était une façon de survivre dans son métier puis de rien faire brûler. Il l'a fait. Puis ce gars-là est chef. Il dirige un restaurant. Il se prend en main.
Oui. Mais rappelez-vous que le déficit d'attention, c'est un élément de la personne. Hein?
Mm-hmm.
Derrière le déficit d'attention, il y a une personnalité, il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer que peut-être cette personne-là, même si elle n'avait pas de déficit d'attention, elle ne se prendrait peut-être pas en main sur d'autres choses.
C'est quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui a à cœur la relation, qui est prêt à s'engager.
C'est une victimite qui utilise tout ce qu'il y a autour.
Ah, la victimite. Et que j'ai de la misère avec la victimite.
Ben, la victimite, c'est...
Il y a du monde, c'est jamais de leur faute. Pas capable.
Ben, ça se peut que tu aies un déficit d'attention qui est victimite.
Moi, je dis à ma blonde, tout s'explique, chérie.
Tu dis ça, toi?
T'as oublié de faire la vaisselle, Yann. Là. Ça fait 2 jours en ligne, tu me dis que tu vas faire... Oui, mais tout s'explique, chérie.
C'est pas ce que tu penses.
Ça, on appelle ça de la manipulation.
Ah, ouais,
bon. Ah, OK, ouais.
Ben, c'est...
C'est un peu toxique.
ça dépend l'après. Là. On sait pas comment il a résulté de ce commentaire-là.
Oh, mais... Tu lui fais l'amour, puis elle l'oublie le lendemain. C'est pas grave.
Ah, ben là, ça, c'est d'autres outils dans un couple.
Ouais, mais tu sais, un moment donné, il sera plus capable, puis il aura plus ça. Là. Là, il bénéficie de cet outil-là.
Prépare tes vieux jours, maçon!
Elle va me domper pour un plus jeune. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. Tu donnes des conférences, tu rencontres des clients. On fait comment pour te rejoindre?
Tapez Paul Lévesque, pas d'accent, je vais apparaître à quelque part sur Google. Paul Lévesque à commercial@yahoo.ca, Paul Lévesque Facebook, vous allez me reconnaître facilement. Les cheveux rouges.
Les conférences ouvertes à tout le monde?
Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Sont beaucoup. Tu sais, à soir, je suis en conférence sur les techniques d'impact. Là. Mais c'est
fermé. C'est quoi les techniques d'impact?
C'est quoi les techniques d'impact?
Les techniques d'impact, c'est pour les parents.
Ça fait, tu sais, les gars là, qui font la sécurité d'un bar. Là.
Oui, c'est ça. Pouf!
Bon, vous comprendrez que ce n'est pas celle-là moi je vais utiliser parce que je ne réussirai jamais mon punch. Mais technique d'impact, c'est comment on apprend par les leçons de vie. OK? Puis je pourrais venir vous en reparler si vous voulez. Quand tes parents, là, ben une des façons d'éduquer nos enfants, c'est de leur faire comprendre par des leçons de vie. Moi, je crois que c'est très puissant et j'en enseigne plein ce soir. Donc, je serai à Saint-Étienne ce soir.
À Saint-Étienne. Un gros merci pour l'évêque.
Bisous. Bye-bye.
Bye-bye. 418-971-101, si vous avez des choses à me dire, on vient.
Marceau, le soir.
Salut, c'est Marceau et Audrey Pinchot. Madame Pinchot qui est en vacances pour 2-3 semaines. Quelle chanceuse! Je sais pas si elle est partie avec son pack-sac à la découverte de l'Amérique.
Les cités d'or!
Non, c'est Tom Sawyer. T'as-tu connu ça, toi, Tom Sawyer?
Non.
Tom Sawyer, c'est l'Amérique de tous ceux qui veulent la liberté.
Je peux encore, fois de temps en temps, dire que je suis trop jeune pour ça. Moi, Tom Sawyer, c'est une toune de Rush dans ma tête.
OK. Mais je me souviens pas, les amis. Aidez-moi par texto 418-971-1021. Tom Sawyer, c'est-tu lui qui habitait dans un arbre ou c'était le chum du gars qui habitait dans un arbre? Mais bref, c'était des petits comics qu'on avait quand on était jeunes. Puis la semaine passée, avec Audrey, on est tombé dans l'univers des petits comics. On voyait, moi et Audrey, qu'on avait comme une génération de différence.
Clairement. Ouais. En plus, Audrey est quelques années plus jeune que moi. Là,
ouais.
Fait qu'elle, tu lui parles de Goldorak, mettons, là, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là.
Non. Hey, question bien personnelle, les amis. Est-ce que vous êtes endetté? Est-ce que votre ménage est endetté? 418-971-1021. Moi, jusqu'à maintenant, ça semble bien aller. J'ai pas de dette de voiture. Mon char est payé, tellement laid et vieux que si je disais que j'avais un paiement là-dessus, ce serait une vraie honte.
Oui, mais c'est un bon choix de vie. Mais, ça te permet d'avoir du lousse ailleurs, peut-être.
Ouais, la seule dette que j'ai, c'est ma dette d'hypothèque.
Et donc,
j'ai pas été capable
dette.
De la payer cash. Ah, c'est une bonne dette. C'est une bonne dette. J'ai jamais été capable d'évaluer, là, mettons, mon taux d'endettement par ménage, mais je regardais des chiffres qui sont disponibles dans un article de la presse que tu vas nous jaser dans les prochaines secondes. Au Canada, si tu fais 100 000 par année, t'en dois 180. Ouais. On est le pays le plus endetté parmi les pays du G7. Vient ensuite le Royaume-Uni, la France, le Japon, États-Unis, qui sont en 2023, là, je te dirais, autour de 118 000. Là, j'ai de la misère à mettre ma petite flèche, là, mais 118 000 sur 100 000.
Tu sais, la bonne façon de l'imager, je trouve, là, c'est quand on dit qu'au Canada, pour chaque dollar que tu fais, t'en dois 1,84.
Exact. Fait que t'as un revenu familial de 100 000, ben, tu dois 184 000.
Si tu fais un calcul, ça marche pas à quelque part.
Ben non, mais en même temps, c'est pour que tu te compares avec les autres pays aussi. Là.
Ben, c'est ça, exactement. Donc, comme tu le dis, là, au Canada, on est assez haut en haut, là. Royaume-Uni, France, Japon, États-Unis, Allemagne et Italie qui suivent. Et ce qu'on remarque dans la grande majorité des pays, c'est que c'est un chiffre qui est en montée. Donc, si on se compare à 1995, on est de plus en plus endetté, tu sais. Alors que dans le fond, tu peux dire, les sociétés sont de plus en plus éduquées, donc on va chercher des salaires peut-être de plus en plus hauts. Mais tu as remarqué que des fois, plus t'en fais, plus t'en veux.
Oui, oui, c'est sûr.
C'est une roue qui tourne. Hein?
Effectivement. Des commentaires par texto 88-971-101. Maison et une voiture, c'est tout ce que j'ai comme endettement. Jamais de la vie, je vais m'endetter pour voyager ou me payer quelque chose à crédit. Tu sais quoi? Moi, vers 70 ans, je vais mettre le gaz au fond.
Ah ouais, hein?
Je vais m'endetter à côté. Il ne restera pas une maudite scène. Je vais devoir comme 300 000, 350 000 au gouvernement du Québec. Bye, après moi, le déluge.
Ah, t'es pas le genre...
J'organiserai comme vous voudrez.
T'es le genre de gars à dire, non, je vais en garder, mes gars manqueront de rien. Non.
Ah, non, mais ça va tout être caché dans des comptes, là, bien caché. Mais, mais pour moi, je vais essayer de me devoir le cul à ma mort.
Ah, c'est peut-être une bonne tactique. Écoute, je suis loin d'être conseillère financière, mais j'ai mis la main sur cet article dont tu parles dans la presse là, qui s'appelle « Les 10 secrets des personnes économes, mais pas tristes ». Fait que c'est le fun parce que des fois, on associe le fait d'être économe à être plate puis avoir une vie plate, tu sais. Mais il y a des choses qui viennent vraiment de l'évidence puis il y a des petits points sur lesquels tu vas pouvoir m'arrêter si tu veux pour qu'on en parle un peu plus, OK? Premièrement, les gens vivent en dessous de leurs moyens. Ça, c'est être économe, à vivre en dessous de ses moyens. C'est pas une majorité des gens qui est comme ça.
Fait que tu fais 100 000, tu vis comme un gars qui fait 75.
Ben c'est ça, exact. Ça, c'est le truc numéro un. Tu sais, tu me parles de ton véhicule, Yann, là. Quelle bonne décision. Un char neuf, là, dès qu'il sort de la cour, il perd énormément de valeur.
Ouais.
C'est pas une bonne place où mettre de l'argent nécessairement.
Non, puis en même temps, là, il me coûte plus cher d'huile que de gaz. Fait que j'aimerais commencer. Ah, faut pas je pense.
Des peintes d'huile. Let's go. Ah, brûle-moi ça. La budgétisation comme mode de vie. Faire un budget, c'est une chose. Le suivre, y revenir une fois de temps en temps, l'ajuster, c'est peut-être là qu'on manque une fois de temps en temps. Ouais. Donc, au moins une fois par mois, s'asseoir, puis observer où est-ce qu'on en est dans nos objectifs de budget. Ça peut être un bon truc. Puis un des trucs, c'est de le voir comme un plaisir, tu sais, de se fixer des objectifs. Puis un peu comme dans tes jeux vidéo, ben finalement, de dire...
De mettre un timer.
C'est ça. Ouais. La chasse aux aubaines les amuse, ça, évidemment.
Je le fais.
Prendre plaisir à aller magasiner puis à sauver de l'argent sur un produit que tu aurais acheté déjà, ça peut être le fun.
Je vais vous gâter, avec Amazon Prime, j'ai acheté comme 5 T-shirts Under Armour de couleurs différentes. Vous allez tellement être gâtés cette année, filles.
Oh, wow! Ouais. On va être tellement contents.
Il y avait des deals.
Comme dans le sport, la constance, c'est l'athlée. C'est beau mettre des efforts pendant 3 semaines, mais si tu le fais pendant 3 ans, 10 ans, 20 ans, c'est là que tu vas voir le fruit de tes efforts. Essayez de réduire ses impôts avec les REER, les CELI, les REE, le CELIAP. Ça, c'est vraiment des beaux trucs des gens économes, mais heureux, selon cet article dans la presse. Ils sont sur la même longueur d'onde que leurs partenaires. Ça, c'est un bon point.
Tu vois, ça va en contradiction avec ce qui se passe devant moi par texto. « Salut, j'ai une hypothèque avec ma conjointe. Elle n'a aucune autre dette. Moi, j'ai 30 000 sur mes cartes de crédit car je trouve pas de job intéressant depuis près de 18 mois.
Et... »
Ben, moi, tu vois, c'est même si la job n'est pas intéressante, je retournerai à job, là.
Ben, personnellement, je trouve pas que c'est une stratégie financière viable.
C'est ça. J'irai faire des ménages en dessous de la table. Oh, 30 000 piastres de dette sur la carte de crédit.
Je dormirai pas. J'aurais de la misère. Puis je dis ça sans jugement pour la personne parce que j'ose imaginer que si elle nous dit ça, c'est parce qu'elle a une stratégie à long terme.
Oui, ou sa conjointe a une très bonne job.
Quelque chose de même.
Hey, c'est mon rêve, ça, de me faire vivre par une madame riche.
Je vais t'en présenter une coupe.
Hey, j'ai une blonde.
Et les deux derniers points. Le bonheur n'est pas dans l'argent, mais dans ce qu'il procure. Et pouvoir fermer le robinet illico, c'est est-ce que tu as la capacité d'avoir un coussin disponible. Comme ça, s'il y a une bad luck qui arrive dans ta vie, ben tu es capable de fermer ça puis de d'avoir ton coussin. Donc, ce sont des petites stratégies comme
Je vends mes chats pas de poils. C'est eux autres,
ça
mon
vaut,
coussin.
Ça vaut cher, ça. Hein?
Ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce qu'ils disent. Mais ça salit. Ça salit ton divan, ça salit tes rideaux.
Une
ça...
petite couche de gras.
Une petite
hein?
couche de gras. Ouais.
Ça pue aussi, ces chenilles.
Ouais. Et là, on est déjà rendu à demain. Donc, demain, ce sera mercredi. Ça passe vite la semaine en bonne compagnie. Hein?
Ça passe très, très vite et je suis contente. On a commencé et on a fini le show en parlant de tes chats pas de poêle.
Voilà.
Tout est dans tout.
La boucle est bouclée. Jeff Fortin, il en vient dans les prochaines minutes, les amis. Mais pour l'instant, Vincent Vallière. OK, on part sur le boulevard. Salut, hello.
J'ai une vieille tonne des...